Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et nous terminons cette semaine dédiée à des portraits au féminin par une passeuse de réel chère au cœur des documentaristes, Mariana Otero. La critique de Jean-Michel Frodon sur À ciel ouvert résume sa démarche. Faire un film suppose en principe de trouver une forme, de donner une sorte d'unité de mouvement d'ensemble aux éléments assemblés. La force et la justesse d'À ciel ouvert tiennent au contraire à son caractère disjoint qui déstabilise le spectateur. C'est bien le moins face à des enfants fous. Et jamais ne lui rend une posture confortable. Le regard sur les visages des enfants, leurs gestes, leur corps, et aussi sur les lieux intérieurs, des bâtiments et près alentour, est toujours avec, jamais contre. C'est le 17 juillet 2008 que nous avions diffusé dans Sur les Docs le portrait d'aujourd'hui. À ce moment, Mariana Otero s'était confrontée à un secret de famille concernant sa mère, la peintre Clotilde Vautier.
Ça m'arrivait de penser qu'elle n'était pas morte.
Moi aussi.
Ouais.
Qu'elle était partie, en fait.
Ouais.
Alors, je regardais des fois des femmes dans le métro ou dans le bus.
C'est vrai?
Oui, et
moi aussi.
Ah bon? Puis je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que maman est morte? Et là, elle m'a dit oui, c'est vrai. Je me suis levée brusquement et j'ai crié, maman est morte, en courant comme ça, jusqu'à toi. Et comme toi, c'est pareil, tu étais là, tu étais en train de jouer et que tu réagissais pas.
Il y a une manière de rendre compte d'un état de choc.
On cachait.
Top secret.
On savait qu'il fallait pas en parler, donc on n'en parlait pas.
On nous avait dit une phrase qui était un mensonge, mais il n'y avait aucune raison de le mettre en doute.
Moi, j'ai autour de moi.
Elle met en lumière un moment. Et c'est ce fameux moment où il n'y a plus la mémoire, etc. Et elle demande à tous ses intervenants de l'aider à retrouver son chemin.
Passeur de réel, Mariana Otero.
Je laisserai bien un voile se répandre là-dessus.
Une émission de Jean-Baptiste Pertier et Vanessa Nadjar.
Est-ce que tu m'écoutes?
Oui, je t'écoute, là.
Je ne te le dirai jamais. Jamais.
Mariana Otero fait des études à l'IDEC et co-réalise à 26 ans le documentaire Non-lieu. Première expérience d'un tournage en immersion pendant de longs mois, où la caméra capte la splendeur et les misères quotidiennes de petites gens de banlieue. Après ce coup d'essai, la réalisatrice filme pendant toute une année scolaire la vie d'un collège de Seine-Saint-Denis. Elle en tire la loi du collège, qui est moins un documentaire sur la relation pédagogique en zone d'éducation prioritaire, qu'un film sur le rapport à la loi, notamment autour de la figure du chef d'établissement, sorte de Clint Eastwood du collège. Le film est diffusé sous la forme d'un feuilleton documentaire, un genre alors inédit à la télévision française. Mariana Otero part ensuite vivre au Portugal, à Lisbonne, où elle poursuit son travail d'immersion avec le documentaire « Cette télévision est la vôtre » dans les coulisses d'une chaîne commerciale portugaise. Une télévision dont les programmes sont choisis avant tout pour valoriser les espaces publicitaires, et notamment dans une séquence mémorable du film pour vendre des saucisses. Le film vaut à la réalisatrice de se retrouver persona non grata pour travailler sur des documentaires au Portugal. Après ces films, tous marqués par l'approche du cinéma direct, Mariana Otero remet en jeu son écriture du réel et réalise « Histoire d'un secret ». Le film sort dans les salles en 2003 et réunit 70 000 spectateurs en France. Il articule, sur un mode à la fois intime et universel, la découverte d'une œuvre picturale et la révélation d'un secret de famille. En compagnie de son producteur, de sa monteuse, de sa chef opératrice et de sa sœur, voici un retour sur la façon dont la cinéaste utilise les outils de la fiction pour capter le réel, offrant avec ce film une enquête bouleversante, à la fois très mise en scène et totalement documentaire.
Et il y a un truc que je ne sais pas si ça t'intéresse de le savoir, c'était un lundi, et mes mères, tu sais bien, faisaient le catéchisme.
Dans l'ancienne mairie.
Dans l'ancienne petite mairie. Et il a fallu lui dire, comme ça, vraiment, hein, sans préparation, lui dire qu'on venait de recevoir une nouvelle, ou d'abord que Clotilde hein, était morte, et je verrais toujours mes mères s'asseoir sur le petit muret, hein, et puis elle s'est relevée, elle est entrée dans la salle avec les enfants. Elle a dit aux enfants, bon, eh bien, mes enfants, tous ensemble, on va dire, je vous salue Marie. Et ça a été tout. Et alors, tu sais, aussitôt, il fallait prendre des décisions. Et alors, c'est là qu'on décidait finalement que ta maman serait éliminée.
Et nous, on était où alors pendant l'enterrement?
Ah, ben, chez toi, tu étais chez nous. Et donc, moi, je suis allée à l'inhumation. Et toi, tu étais restée avec maman et les cousins et les cousines.
Et alors là, on ne nous avait rien dit.
On ne vous avait rien dit. Et mes mères ne pouvaient jamais ni en parler, ni même avec nous. Jamais.
Elle est allée tourner en Normandie. Et alors, je l'appelais de temps en temps, je disais « ça va ?» et tout. Elle me disait « oh, c'est la galère, c'est la galère. » Je dis « ah bon, pourquoi ?»« Parce qu'il pleut pas. »« Ah, et ?»« Mais tu sais bien qu'en Normandie, il pleut tout le temps. »« Bah oui, mais... » Et moi, je voudrais qu'il pleuve, parce que dans mon film, ça peut pas être le soleil. La Normandie, c'est pas le soleil. Notre enfance en Normandie, c'est pas le plein soleil, c'est la pluie.
J'ai un autre souvenir aussi, du mois de mai 68. Forcément, il y avait la télévision avec les barricades à Paris, et que Karina, regardant la télévision, avait dit « Oh, mais il faudrait que maman revienne, parce que s'il reste à Paris, elle pourrait se faire tuer. » C'est ça qu'avait été dit. Qu'elle était à Paris. Et donc, de ce fait-là, eh bien, ça n'a jamais été dit.
Mais vous n'êtes jamais revenu là-dessus, jamais...
Non, non. Nous-mêmes, maintenant, on n'arrive pas à comprendre comment, même nous, on a accepté ça, si tu veux, qu'on n'a pas dit, mais il faut le dire. Et je crois qu'à cette époque-là, c'était ça. On cachait.
Top secret.
On savait qu'il ne fallait pas en parler, donc on n'en parlait pas.
Et un jour, Mariana me parle, en fait, au-delà du travail de peintre de sa mère, me parle des circonstances du décès de sa mère. Et peu à peu, je comprends que le projet qu'elle porte en elle depuis longtemps est un projet beaucoup plus vaste, qui concerne un secret familial, qui concerne la façon dont sa mère est décédée, que tout ça lui a été caché, ainsi qu'à sa sœur, la comédienne Isabelle Otero, et que c'est ça dont elle a envie de parler. Et alors là, on rentrait dans quelque chose de complexe, puisque là, elle travaillait sur l'intime, cela impliquait des membres de sa famille, qui certains étaient au courant, d'autres pas.
Je me souviens tout de même une fois que tu étais sur mes genoux et que, très doucement, de tes lèvres, il y avait le mot « maman », que tu faisais « maman ».
Isabelle Otero, maman. Pour « Histoire d'un secret », Mariana Otero, qui est donc votre sœur, a écrit un scénario. Vous êtes comédienne de profession, donc vous avez l'habitude, avant de tourner dans un film, de lire le scénario. Est-ce que là, ça a été le cas ?
Absolument pas. Elle m'a parlé du film très très tard, en fait. Elle ne voulait absolument pas que je connaisse ni le contenu, ni le fil de son récit. Elle voulait non plus pas que je sache où elle allait m'emmener. Et pour elle, tout devait être une surprise. Elle m'a dit, est-ce que t'es libre tel jour et tel jour ? Donc ça correspondait à son plan de travail. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis libre tel jour. Donc elle me disait, donc voilà, tel jour, je te donnerai rendez-vous quelque part. Évidemment, quand elle m'a dit, par exemple... On va tourner à Granville. J'ai tout de suite compris, on allait tourner. C'était la première séquence qu'on a tournée ensemble. J'ai tout de suite compris qu'elle nous emmenait dans le lieu de vacances dans lequel on était quand on était petite, qui était un lieu où on allait avec nos grands-parents après la mort de notre mère. Et je savais très bien où elle me donnait rendez-vous. Mais je ne l'ai même pas dit à Mariana. J'ai juste, quand elle m'a dit Granville, j'ai fait « Ah oui, d'accord ». Et j'ai pensé « Bah oui, ça va être à La Horie ». Bon, et j'ai fait « Tiens, chouette, je vais revoir le lieu de notre enfance. Ça a dû vachement changer. » Ou alors, peut-être que ça n'a pas changé. Enfin bon.
C'est là où tu joues à la balle. Avec les filles. C'est là que je suis venue te dire « Alors là, je joue à la balle ici ».
Alors là, en fait, j'évoque une scène très particulière, en fait, de notre enfance. C'est le jour où j'ai demandé à ma grand-mère si, effectivement, notre maman était morte. Et c'est un moment dont je me souviens absolument dans ma vie, à moi, et qu'elle a totalement rayé, elle, de son histoire.
Je me souviens parfaitement, elle était assise comme ça, tranquille, et puis je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que maman est morte ? Et là, elle m'a dit oui, c'est vrai. Et elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, elle ne m'a pas pris dans ses bras, elle n'a pas réagi, elle n'a pas pleuré. Donc moi, j'étais complètement interloquée parce que. Et comme il n'y avait rien et qu'il ne se passait rien et que personne ne faisait rien et que. Tu vois, et qu'il n'y avait pas d'intention particulière, pas de. Tu vois, pas. Du coup, je me suis levée brusquement et j'ai crié, maman est morte, en courant comme ça, jusqu'à toi. Et comme toi, c'est pareil, t'étais là, t'étais en train de jouer et que tu réagissais pas, et ben, je suis restée avec ce truc-là toute la journée. Et donc, en fait, c'est ça qui est sorti, ce jour-là. C'est cette fameuse phrase qui n'arrêtait pas d'être prononcée à l'école, où j'ai fini par dire à mes mères, ben, alors, est-ce que c'est vrai que maman est morte, quoi ?
Ça me fait rire, ce temps.
Oui, personne ne t'a dit.
Pourquoi?
Ah oui, vous étiez là en train de sans arrêt réclamer après elle.
Tout ça, c'est des temps qui au cinéma n'existent pas. Enfin, je veux dire, quand on joue, par exemple. C'est vrai qu'il y a des temps, quand on est comédien, qu'on s'octroie pas. Et ce silence-là, où je réfléchis, où je me dis, est-ce que quelqu'un, effectivement, nous l'a dit? Est-ce qu'on l'aurait entendu? Eh ben, je suis sûre que s'il avait fallu le jouer, je l'aurais fait plus court. Mais là, j'en ai rien à foutre, quelque part. Je suis en train de parler avec ma sœur. Je me suis filmée, certes, mais voilà. Et donc, le temps, il peut durer ce qui dure, ça n'a pas d'importance.
Alors parlons de cette question de être comédienne et en même temps jouer dans ce film votre propre rôle, être vous-même. Est-ce que vous avez le sentiment que vous vous êtes en quelque sorte auto-mise en scène? Est-ce que Mariana vous a donné des indications de mise en scène et quelque part de jeu? Comment c'est un petit peu articulé le fait d'être à la fois une comédienne de profession et d'apparaître dans ce film en tant que la sœur de Mariana Otero?
Ben pour moi, il y avait une évidence, c'est que j'étais pas du tout comédienne et qu'il s'agissait ni d'acter, ni de jouer, ni... mais tout simplement de lui donner la réponse qu'elle attendait, parce que je pense qu'elle a fait ce film aussi comme une interrogation qu'elle donne à voir aux gens qui ont été autour d'elle. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait un non-dit, un blanc. Hein, voilà, elle a un cahier d'écolier dans lequel il y a des pages blanches. Et elle dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour moi, je ne sais pas ce que j'ai pensé à ce moment-là, je ne sais pas ce que les autres ont pensé, est-ce que vous pouvez m'éclairer? Cette mort, qui est un moment dans ma vie que j'efface, j'aimerais le rendre à la mémoire et j'aimerais que vous m'y aidiez. Donc moi, il n'était pas question pour moi ni de jouer ni quoi que ce soit, il était question de répondre à ses questions à elle, à son questionnement, lui redonner des mots et des images qui correspondaient à un moment de sa vie qu'elle avait voilà, effacé, quoi.
Par exemple, la façon de vous vêtir ce jour-là, la façon de vous coiffer, de vous maquiller ou pas. Est-ce que ça a été des choix que vous avez fait en commun? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de tout? Comment ça s'est joué?
Non, elle m'a rien demandé. Par contre, j'ai pris soin de me coiffer un peu comme elle. C'est-à-dire, j'avais pas envie d'être ni maquillée ni coiffée. J'avais envie d'être ce que je suis dans la vie et le plus proche d'elle possible. Et il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance dans la voix, dans le grain de la voix. Il y a une ressemblance dans... On a un peu le même sourire. Enfin, il y a plein de choses en commun, ma sœur et moi. Donc, et j'avais envie justement qu'on soit proche.
Alors, je regardais des fois des femmes dans le métro ou dans le bus.
C'est vrai?
Oui.
Et puis, moi aussi.
Ah bon? Mais en fait, j'aimerais bien aller lui dire, vous savez, je suis votre fille... Et voilà, et je sais que vous êtes partie, mais...
Ah oui. Moi aussi.
Ouais, c'est drôle.
Elle avait vraiment une idée très précise de passer du temps à parler avec Isabelle. La notion de canapé était importante pour elle, que ça soit un plan séquence de manière à ce qu'on n'ait pas de découpage à faire, que ce soit pas quelque chose où Isabelle me voit tourner autour d'elle, ensuite passer en contre-champ sur Mariana, tout ça. Elle voulait que Isabelle oublie un peu l'aspect technique d'un tournage. Et je pense que Mariana tenait à être un peu dans la pénombre. C'est pas pour rien que très vite elle se met dos au projecteur, donc on la voit pas beaucoup, et que ce soit Isabelle qui soit plus en lumière, mais en même temps pas d'éclairage de face pour pas qu'elle croie qu'on fait du cinéma. Il fallait vraiment que Isabelle nous oublie totalement, qu'il n'y ait pas un faisceau de lumière à bien prendre, d'où une lumière latérale, comme ça elle ne voit rien devant elle, et que moi j'étais là, debout, tout au moins assise, je crois, à filmer sans bouger.
Ça ne me dit rien, ça. Ça ne me dit rien. C'est très étonnant. C'était sa robe, alors.
Ouais. Ah, tu ne veux pas la mettre?
Tu plaisantes?
Bah non, pourquoi?
Ah non, je ne pourrais pas.
Ah non, tu veux pas?
Ah non.
Alors ça, j'adore le coup de la robe.
Non, rien du tout.
Ça me fait beaucoup rire, cette histoire de robe. Qu'elle voulait que j'essaye.
C'est très étonnant.
Oui, ça avait un côté frics pour moi. C'était très, très étonnant ce qu'elle me demandait. Elle me demandait, en fait, c'est vraiment ça l'image qui m'est venue. Parce qu'elle était persuadée que j'allais la mettre. Elle avait même prévu, donc dans sa mise en scène à elle, elle avait changé l'emplacement du canapé et elle avait mis un miroir juste à côté, dans lequel je devais, soi-disant, me contempler et réagir. Donc elle avait vraiment, dans sa mise en scène, prévu quelque chose qui n'a pas eu lieu. Parce que quand elle m'a demandé de la mettre, ça a été... ça pouvait pas, quoi. C'était impossible pour moi. Il y avait une impossibilité totale.
Dans la scène qu'on vient de voir, on entend que vous dites des choses avec Mariana Otero que vous ne vous étiez jamais dites.
Oui.
Est-ce que ça, c'est le hasard d'un jour de tournage ou d'une nuit de tournage, ou est-ce que c'est la mise en scène qui crée cela ?
Je pense que c'est la création d'un moment et que celui qu'elle a créé amenait à la confidence ou à ce type de confidence. On se serait peut-être posé un jour diurne, mais pas nocturne, dans la cuisine, face à face. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu ce type de confidence. Je pense que ce qui a amené aussi à ce qu'on se dise ce genre de choses, c'était notre proximité, le fait qu'on soit côte à côte, et que je puisse la toucher, que je puisse lui prendre la main, et justement qu'on ne soit pas en miroir, mais comme dans le train de la vie, quoi. On est assise côte à côte, on avance vers quelque part et on a derrière nous un passé, des bagages. Et on dit « Ah, t'as vu ? Moi, dans mon bagage, j'ai ça. Ah bon ? Et toi ? Ah, toi aussi, t'as celui-là ? C'est marrant. Ah ouais. » Et il y avait un côté comme ça, on lâche, quoi. On avance, on ramasse des trucs, quoi.
Et à partir de là, je t'ai toujours vu comme un être qui me protégeait. Tu ne doutes pas de son...
Non. C'était un sacré moment, hein.
Non, jamais.
Alors justement, sur une scène comme ça, Nelly Cattier, dans votre position de monteuse, quelles sont les questions que vous vous posez? En revoyant comme ça la scène, qu'est-ce qui vous vient?
Ben moi, je l'ai vue comme spectatrice.
Des souvenirs d'elle.
Donc c'est touchant et c'est drôle. Et la force de cette scène, c'est qu'elle ne s'était jamais parlé, les deux sœurs. Et ça c'est quelque chose d'inouï quand on voit ça au cinéma, qu'on sent ça. Que nous, spectateurs, on est au même niveau qu'elle. Et ça, c'est un beau moment. Bon, alors après, bon, au montage, bon, comme c'était une séquence très longue, etc., et que, bon, on pouvait pas changer la caméra de place, donc on a pris ce parti pris de faire des jump cuts, avec cette petite note de musique pour essayer de faire passer un peu le raccord.
Des jump cuts, c'est-à-dire des coupes
à l'intérieur d'un plan séquence.
Et donc, quitte à jouer la coupe à l'intérieur du plan séquence...
Autant que ça se voit, parce que de toute façon, de temps en temps, au montage, on peut faire des jump cuts qui ne se voient pas, mais là, bon, ils se voyaient tellement qu'il fallait au contraire les accentuer.
Et les marquer avec cette note de musique.
Voilà.
Ce tableau correspond à la grossesse de Clotilde, puisqu'elle l'a fait quand elle était enceinte de moi.
Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait à certains moments des éclairages artificiels, donc des projecteurs. On imagine que ça demande quand même une certaine mise en place. On sait que sur les tournages de fiction, c'est des choses qui peuvent prendre plusieurs heures. Est-ce que là, il n'y avait pas de temps en temps une difficulté entre le fait d'être quand même dans une logique de documentaire, avec un réel à capter, des intervenants qu'on ne peut pas faire attendre toute une journée comme des comédiens, et puis ce souci quand même assez précis de mettre en place des lumières?
Oui, mais alors donc ça c'était un peu un jeu entre guillemets que Mariana était d'accord de jouer, c'est-à-dire que à partir du moment où on filme chez des gens, mais que on n'est pas juste là à sonner à la porte et ensuite on lance le moteur, ce qui est un peu le souci de la vidéo. Là, Mariana, comme elle voulait des choses assez précises, elle savait, elle avait dit aux intervenants, donc les gens de sa famille ou sa sœur, son père, que ils allaient devoir patienter, qu'on allait tourner dans cette pièce-là. Donc du coup, il fallait qu'on l'organise. Autant mettre des projecteurs, ce qui était souvent en fait des néons derrière les fenêtres. Donc c'est pas des projecteurs très volumineux, mais qui pouvaient donner une constance de luminosité si la scène a tourné durait 3 ou 4 heures. Et donc on enlevait aussi beaucoup de choses de leur appartement. Donc les intervenants savaient que de toute façon, on faisait un peu une mise en espace et que c'était pas juste on arrive et moteur. C'est-à-dire que ça... Mariana le savait, c'était important pour elle de déréaliser un petit peu le contexte. Et donc, les intervenants, ils savaient qu'ils devaient jouer le jeu, en fait. C'était un peu la base. Donc, entre le moment où on arrivait et le moment où on commençait à tourner, il y avait toujours 2 heures qui se passaient, mais en même temps, c'était aussi une forme de concentration. Et Mariana pouvait aussi parler un petit peu avec eux en amont de ce qu'on allait faire.
C'est évident que je n'ai pas vous dire immédiatement après sa mort. Qu'elle était morte a été une erreur épouvantable. Mais sur le moment, nous avons cru bien faire.
Donc, on l'a tourné en plusieurs jours déjà, parce que donc le dispositif était un peu compliqué. Bien évidemment, il fallait qu'on puisse filmer Mariana et son père en même temps. Qu'on soit autant sur lui que sur elle au même moment, puisque déjà, non seulement ils allaient se balader, ou elle roulait dans Rennes, donc il fallait absolument que ce soit raccord pour l'un et pour l'autre, et que surtout, Mariana ne voulait absolument pas qu'on soit tout sur son père et qu'ensuite on fasse une série de contre-champs sur elle, qui serait une espèce de banque à images de sa réaction en muet ou ses questions. Donc en fait, on a fait un système où on a mis donc les deux caméras sur le capot, l'une orientée vers le père, l'une orientée vers elle. Et il fallait aussi que son père oublie ce dispositif de deux bazars devant lui, quoi. Et donc on l'a fait plusieurs fois parce que c'était des scènes assez éprouvantes pour elle comme pour lui.
Ça veut dire qu'il y a eu en quelque sorte plusieurs prises où ils ont redit à chaque fois les mêmes choses?
Non. C'était assez long cette scène à faire. Elle n'a pas fait tout d'un bloc. C'était mieux de la faire en 2-3 fois. Une fois qu'on avait trouvé la bonne méthode ensuite pour réinstaller les caméras, c'était très simple. Et ça permettait que, voilà, qu'elle pouvait faire chapitre par chapitre, même par rapport à son père, c'était quand même nettement mieux.
C'est en fait parce qu'un jour, Antonio nous a dit en fait de quoi elle était décédée, en fait.
Ah oui. Vous ne saviez pas. Là, mais c'est très tard.
Mais en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas non plus.
Ah, c'est bien.
C'est que... En fait, elle est... Mais je sais pas si je dois vous le dire, en fait.
Tu fais comme tu veux, Mariana. Comme tu le sens et comme tu veux. Hein? Si tu ne le dis pas, tu ne le dis pas. Mais c'est toi qui... Tu fais comme tu veux.
Alors, en fait, elle était enceinte et puis elle n'a pas voulu garder l'enfant.
Ah.
Et... Parce qu'elle voulait pas d'un troisième enfant, parce qu'elle voulait peindre et...
Et ben voilà.
Et elle l'a fait elle-même et puis...
Et ça
s'est mal passé.
Et ça s'est mal passé. Ensuite,
moi, je comprends tes réticences.
Ce qui est quand même incroyable dans cette scène, d'entendre et de voir l'oncle, donc le frère de Clotilde, qui continue à manger pour cacher son malaise. C'est quand même assez incroyable.
Et après, comment retenir sur quelque chose qu'on n'a pas dit?
Hélène Louvard, c'est une scène importante du film. Quel était l'enjeu pour vous, dans votre position de chef opératrice, de celle qui tenait la caméra?
Disons que c'est... Je pense qu'on peut dire que cette scène-là a été la plus difficile à concrétiser. Et il fallait pas transformer leur maison en plateau télé. Surtout pas. Il fallait filmer cette scène du repas en même temps, tout en gardant un peu une atmosphère. Donc il fallait un petit peu transformer leur contexte visuel. Donc c'est forcément un éclairage plus contraste. À un moment donné, on éteint leur plafonnier. Donc de manière, il y a quand même on triche un peu sur le réel. Il fallait que discrètement, ils nous oublient de manière à ce qu'il n'y ait pas... On s'échappe de ce dont on est en train de parler... Pour des raisons qu'il y a des gens qui marchent autour de la table, il ne fallait pas qu'ils nous regardent. À un moment donné, on voit d'ailleurs la tante qui, après un petit moment un peu délicat avec Mariana, me jette un petit regard pour voir si on continue à tourner ou si on continue bien. Donc, ils étaient au courant et ils avaient conscience totalement du dispositif, mais plus ils nous oubliaient, mieux c'était pour nous. Donc, c'était une scène super difficile, puisque... Pour Mariana, il fallait pas que ça fasse « il y a la télévision derrière moi ». C'était absolument pas ça. Mais elle voulait pas non plus leur dire sans qu'on filme.
C'est-à-dire que le parti pris très fort de Mariana Otero à ce moment-là, ça a été de leur dire devant la caméra, pour la première fois, les circonstances réelles du décès de sa mère. C'est-à-dire qu'elle a pris le parti de leur annoncer avec la caméra derrière elle, si
voilà.
Je peux dire.
C'est-à-dire que si elle l'avait dit avant et que nous, on refilmait cette scène, ça ne marcherait pas, puisque bah forcément, ce qu'ils allaient ressentir, ça allait être trop tard. Et en même temps, il ne fallait pas que ça soit je vous annonce la vérité, mais je me suis blindée de deux techniciens avec des projecteurs, un micro, une perche, une caméra. Elle voulait pas du tout ça. C'est-à-dire que c'était pas non plus arrêter de respirer, vous êtes filmé.
On imagine aussi qu'il faut pas dans ces cas-là que la caméra devienne une espèce d'objet voyeuriste ou presque d'arme qui va saisir une émotion au moment où elle surgit. En même temps, il faut bien la capter, cette émotion.
Oui.
Donc c'est un équilibre.
Non, mais c'est pour
trouver.
Ça que c'était très délicat parce que par rapport à son oncle, quand elle leur dit la vérité, on est quand même en train de filmer la fraction de seconde après qu'elle lui dit la vérité. Et moi, à ce moment-là, je suis censée être sur lui. C'est pire qu'un espèce d'interrogatoire. Donc, il fallait absolument pas qu'on fasse un truc trop difficile pour eux. Mais il fallait bien qu'on filme, parce qu'ils savaient très bien que le sujet du film de Mariana, c'était parler de sa mère. Donc, il fallait aussi qu'ils jouent le jeu, entre guillemets. Voilà, ils étaient d'accord qu'on les filme le plus simplement possible, le plus discrètement possible, mais il fallait bien que tout le monde joue le même jeu, entre guillemets. C'est-à-dire autant eux que nous.
Et puis on sent pour Mariana qu'il faut du temps quand même pour arriver à dire les choses.
Ben, ce qui est normal, hein. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui a quand même duré presque une quarantaine d'années.
Lors de l'écriture, Mariana, bien sûr, qui était aussi au cœur de cette histoire, avait souhaité écrire une voix. Elle avait écrit d'ailleurs un très très beau texte, qui était à la fois un texte bien sûr rétrospectif, où elle revenait sur cette histoire, sur sa révélation, et qui était aussi un texte adressé à sa mère. Elle disait « tu » à sa mère, un texte extrêmement émouvant, et qui en tous les cas pour moi, faisait absolument partie intégrante du projet. Dans cette partition documentaire, pour moi, cette voix jouait une musique essentielle. Et puis, on tourne le film, en respectant, bien sûr, ce que Mariana avait écrit, bien évidemment avec des surprises, puisque quand elle se confronte à sa famille, quand elle parle avec son oncle et sa tante, bien sûr, quand elle rencontre sa grand-mère, puis son père, évidemment, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle ne savait pas ce qui allait se dire, elle ne savait pas ce que ça allait porter comme charge émotive. Mais cet imprévu faisait partie du projet. Et puis, Mariana se met au montage. Le montage a été très long, hein, il a duré près de 20 semaines. Elle se met au montage avec Nelly Quétier, voilà, qui est une monteuse de fiction, hein, qui a notamment monté tous les films de Claire Denis.
Et on a commencé à monter le film. Il y avait beaucoup, beaucoup de rush, je crois, autour de 60 heures. Et puis, Mariana écrivait la voix off, l'enregistrait. On la montait sur le montage, son premier montage. Et ça marchait jamais bien, quoi. Voilà, ça marchait pas bien. Mais bon, voilà, on continuait dans cette voie-là. Et c'était inimaginable de penser le film autrement qu'avec une voix off, parce que c'était écrit comme ça, Mariana l'avait pensé comme ça, l'avait conçu comme ça. Et on finit ce premier jet de montage, on le montre au producteur, Denis Fred.
Et parfois, je sais que lors de visionnage, il m'arrive d'être un peu brutal, parce que je connais aussi l'inertie d'un montage, c'est-à-dire quand vous avez passé des semaines à assembler des séquences, à les verrouiller, c'est très difficile à défaire. Et parfois, je sais qu'il faut, voilà, opposer quelque chose d'assez brutal pour arriver à repenser un montage. Et donc, ma réaction concernait certains aspects de la construction, voilà, à concerner cette voix off. Je me souviens très bien, oui, avoir dit à Nelly et Mariana, voilà, je pense que là, faut vraiment réagir et que une des solutions, c'est d'abandonner la voix off.
Là, nous, au cours d'un déjeuner que je ne suis pas prête d'oublier, je pense que Mariana aussi, nous descend un petit peu en flamme, quand on était assez minable pendant ce déjeuner. Et là, il nous dit à la fin, mais pourquoi vous n'essayez pas de monter sans voix off? Alors là, c'était une chose auquel on n'avait pas du tout pensé. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Mariana était un peu déroutée, mais je dis bon, on va essayer. Et voilà, on a commencé à reconcevoir le film sans voix off. Et je me souviens, Mariana a eu un petit moment de doute quand elle avait demandé à Denis de revenir à la salle de montage pour voir, parce qu'elle se disait, mais est-ce que ça marche vraiment?
D'autant que cette voix off, Denis Fred, vous l'avez dit tout à l'heure, elle était vraiment partie intégrante du projet, Et vous, en tant que producteur, en tant que personne qui portait ce projet, vous y teniez à cette voix off?
Ah, tout à fait. Moi, j'ai clairement changé d'avis. C'est vrai que, en disant ça, je faisais aussi mon propre deuil de cette voix. Mais je pense qu'à un moment, si vous voulez, le film a sa logique propre. C'est ça qui est fascinant dans le cinéma, c'est que vous pensez les choses, vous les préméditez, vous en parlez pendant des mois, parfois pendant des années, pour écrire un scénario. Et puis après, à un moment, il y a une alchimie étrange et le film impose sa logique. Et ce qu'il faut, c'est arriver à ressentir ça, à épouser le mouvement du film, à le laisser se métamorphoser, se transformer. Et il ne faut pas lutter contre le film. Et là, je pense qu'à un moment, le film nous a dicté ça. Voilà, le film avait pris son autonomie et c'est assez magnifique parce qu'à un moment, voilà, tout d'un coup, le cinéma vous renvoie quelque chose, vous êtes spectateur de quelque chose en train de se créer et qui peut vous surprendre, qui peut être éloigné de ce que vous aviez prévu au début, mais c'est comme ça.
Tout spectateur fait sa voix off, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force du film, c'est que tout un chacun peut mettre ses émotions et son propre rapport à sa mère et ses propres mots. Voilà. Et je pense que ça a été une très très bonne idée parce que ça a ouvert le film.
Mariana Otero, on entendait à l'instant Nelly Quétier, la monteuse d'Histoire d'un secret. Et Denis Fred rappelait que Nelly Quétier, c'est avant tout une monteuse de fiction. Hélène Louvard aussi, la chef opératrice du film, est une chef opératrice qui travaille sur des films de fiction. Alors j'imagine que tout ça, évidemment, c'était pas par hasard. Et si on fait un pas de plus, est-ce que pour vous, à un moment donné, il a même été question de faire de cette histoire, de votre histoire, une fiction, j'allais dire une vraie fiction?
Non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Enfin, pour moi, ce serait d'ailleurs, même encore aujourd'hui, même maintenant en ayant fait ce film, ça serait impossible de créer un personnage qui serait celui de ma mère. Enfin, ce serait scandaleux, enfin immoral, enfin quelque chose que je pourrais pas faire. Moi, l'idée, c'était de pour réagir un peu aussi à ce que disait ma sœur ou des choses. C'était pas tellement de raconter forcément ce que moi j'avais vécu ou de retrouver ma mémoire. C'était vraiment de faire revivre ma mère, et puis à travers elle aussi une femme, une peintre, puis d'autres femmes, enfin les morts, enfin quelque chose qui était plus de l'ordre de cette résurrection. C'était vraiment un travail de cinéma pour faire advenir une présence de quelqu'un qui n'est plus là. Et donc ça la fiction, d'une certaine manière, ça serait l'envers de ça, puisqu'on ferait croire qu'elle est là. Et c'est seulement avec le documentaire qu'on peut à la fois témoigner de l'absence et en même temps faire revenir une présence.
Et malgré tout, dans le film, vous mobilisez quand même un certain nombre d'outils qui sont ceux de la fiction. Notamment le fil narratif du film, c'est quand même un suspense, puisqu'on découvre avec vous, on chemine avec vous dans ce film vers la révélation d'un secret. Et puis même si on pense aux lumières, c'est quand même un film qui se voit vraiment dans le noir, quoi, soit au cinéma, soit chez soi, mais vraiment dans la pénombre. Il y a des clairs-obscurs, il y a comme ça des contre-jours, on est presque parfois dans une ambiance un peu hitchcockienne, quoi.
De toute façon, plus généralement, je pense que le documentaire, il y a de la narration dans le documentaire, il y a du récit, il y a des histoires. Donc en fait, on se pose à peu près les mêmes questions que les réalisateurs de fiction. Après, c'est vrai que, donc ça, au niveau du récit, je dirais que c'est des questions que je me pose toujours en documentaire, et au niveau de la construction aussi. Après, ce qui est en plus, par rapport à d'autres films que j'avais fait, et qu'en documentaire, on n'utilise pas forcément, c'est effectivement tout le travail de lumière, tout le travail sur le décor, toute l'intervention comme ça, qui a permis là de donner une dimension romanesque à une histoire de famille, et je voulais surtout pas que ça reste une histoire de famille. Je voulais que ça accède à un autre niveau, quoi. Accéder à, toujours justement pour rendre hommage à ma mère et faire revivre cette femme, il fallait accéder à du romanesque. Il fallait qu'on soit dans quelque chose qui était entre le réel et l'imaginaire. Et donc, quand Hélène Louvard parle de déréaliser le décor, c'était vraiment ça. Le travail de la lumière était là aussi pour ça. et aussi pour faire un contact, enfin une relation entre la peinture et les images que j'allais tourner. Je voulais qu'il y ait pas de différence. Je voulais que ça puisse se marier. Et quand justement ma sœur parle des paysages, j'étais désespérée parce qu'il pleuvait tout le temps. C'est parce que dans ma tête, il fallait que les paysages que j'allais filmer, ce soit comme les tableaux de ma mère qui sont très gris, très marron, enfin très très dense comme ça. Et donc il fallait absolument qu'il pleuve, quoi. Sinon, il n'y avait plus cette relation possible entre les deux univers. Et donc le travail, je dirais, d'image, c'était aussi un travail pictural. Alors c'est vrai que ça, on le fait pas forcément dans le documentaire.
Mais néanmoins, vous le disiez, effectivement, la question de la narration, bien sûr, se pose dans tous les documentaires. Et si on évoque un autre de vos films, qui est La loi du collège, déjà, vous introduisez un mode de narration entre guillemets fictionné, puisque vous êtes dans une forme de feuilleton, donc avec déjà, par exemple, un générique qui revient à chaque fois, et puis l'idée qu'à la fin de l'épisode 1, on attend l'épisode 2, quoi.
Oui, là, ça a emprunté tout à fait au feuilleton, enfin, de fiction. Hein, il y avait. Et dans ce film-là, je cherchais aussi à chaque fois, quand j'étais dans le collège, à raconter des histoires et donc à voir la résolution de chacune des histoires, à les construire, à faire que les personnages, y ait une tension entre eux, comment ça se résout. Enfin, j'ai toujours conçu mes documentaires comme le raconter des histoires.
Mais ça ne va pas, dans La loi du collège ou dans Histoire d'un secret, par exemple, jusqu'à faire redire des choses aux personnages de vos films. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites parfois? Est-ce que vous vous l'interdisez? Comment vous vous positionnez un peu par rapport à cette question?
Faire redire, je l'ai jamais fait, et je pense même pour le prochain film que je suis en train de préparer, je pense que je le ferai pas. Par contre, une chose que j'ai vraiment commencé à faire dans Histoire d'un secret et que je pense que je continuerai à faire, c'est la mise en scène des corps. Pas la parole. La parole, je pense que c'est quelque chose qui doit surgir, en fait, et qui doit être, il y a quelque chose de vrai dans la parole qui n'appartient qu'à la personne, quoi. Et moi, je veux rien imposer. Je pense que je ferai jamais répéter quoi que ce soit. Par contre, le corps, remettre en scène des corps dont j'ai vu certaines choses, ou bon, dans Histoire d'un secret, c'est surtout moi en fait que je mets en scène, mais je pense que je pourrais le faire avec d'autres aussi. Je pense qu'il y a quelque chose là qui m'intéresse.
Vous le faites pas seulement avec vous dans Histoire d'un secret, parce que quand vous décidez que sur le canapé avec votre sœur vous serez côte à côte,
oui, c'est vrai,
et
c'est
pas
vrai.
Face à face, quand vous décidez que avec votre père vous serez dans une voiture, c'est-à-dire que chaque scène quand même est très pensée dans une mise en espace et dans une mise en scène des corps les uns vis-à-vis des autres.
Ah oui, tout à fait. Non, ça c'était le canapé par exemple, effectivement, le fait d'être côte à côte. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'interprétation que ma sœur en a donnée, parce que je l'avais absolument pas vue comme ça. Donc d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Ça reprend aussi ce que dit Denis Fred. C'est le film, il impose des choses et après chacun interprète. Moi, je l'avais fait justement parce que je pensais qu'en étant face à face, en se regardant dans les yeux, il y a des choses qu'on peut pas se dire. Alors que et d'ailleurs, je me souviens qu'au début, quand j'avais dit on s'assoit côte à côte, elle m'avait dit mais c'est un peu bizarre, c'est pas très naturel. Et effectivement, c'était pas naturel parce que je voulais faire surgir des choses qui naturellement n'était jamais surgi, donc forcément il fallait quelque chose qui ne le soit pas. Mais c'est vrai que la mise en scène des corps, non, vous avez tout à fait raison, c'était important. Enfin, la voiture, c'est pareil, je voulais que avec mon père là c'est pareil, on se regarde pas, quoi, on soit pas en face à face et qu'on puisse regarder l'extérieur, le paysage, qu'on puisse fuir un peu, que lui puisse fuir mon regard qu'il aurait pu voir comme un peu inquisiteur, et moi que je puisse peut-être un peu fuir à sa tristesse, enfin que j'ai pas en face de moi son désespoir qui m'aurait peut-être empêché de parler, quoi, et qui m'aurait un peu bloqué dans cette espèce de recherche que je menais.
Est-ce que l'entretien, c'est quelque chose qui, dans votre écriture documentaire, quelque part, ne rentre pas? Est-ce que ça empêche ce surgissement de la parole dont vous parliez?
Je pense que l'entretien, c'est une forme de mise en scène, d'une certaine manière. Et c'est une forme de mise en scène qui, à mon avis, oui, empêche un peu le surgissement de la parole, parce qu'elle... D'abord, les gens, quand ils sont dans cette forme-là, je pense, se mettent à mimer ce qu'ils ont déjà vu, qu'il y a cette forme-là. Et que si on veut que quelque chose surgisse qui n'est une première fois, quoi, il faut que les gens soient dans quelque chose d'inconnu, quoi, et qu'ils soient transportés ailleurs. Et donc, il faut inventer à chaque fois une mise en scène différente. Sinon, ils redisent les mêmes choses, quoi.
Et c'est vrai qu'Histoire d'un secret, de ce point de vue, est très intéressant, du point de vue du statut de la parole. Parce que c'est pas un film qui capte une parole sur le passé. C'est vraiment saisir une mémoire en train de revenir. Que la caméra soit là au moment même où cette mémoire revient.
Oui, tout à fait. Le présent du moment où on est en train de parler est aussi important que le passé qu'on évoque. peu m'importer en fait ce que les gens allaient me dire. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, hein, c'est pas ce qui... mais c'était le fait qu'ils soient dans cet état-là qui était important, dans l'état de tout d'un coup reparler. Alors même s'ils disaient pas grand-chose, même si c'était des silences, comme ce dont parle Isabelle, c'est vrai que de toute façon, ils allaient être chargés de ça, d'aller chercher comme ça, 30 ans en arrière, et que ce retour-là, tout d'un coup, cette absence revient et conjuguée au présent. Et ça, quel que soit ce que les gens allaient dire, d'une certaine manière, l'émotion, elle était là, quoi.
Alors l'émotion, elle était là. Il y a une scène qui est vraiment très très forte dans le film, c'est la scène où vous annoncez à vos oncles et tantes la vérité sur la mort de votre mère, c'est-à-dire qu'elle est décédée des suites d'un avortement clandestin. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez décidé dès le départ? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez décidé qu'à un moment donné dans le film, vous seriez à la caméra à leur annoncer ce qui s'était passé vraiment?
Non, justement, ça, je l'avais... pour moi, c'était même à exclure. Enfin, c'était quelque chose que j'aurais trouvé... Enfin, je m'étais dit, jamais je le ferais, c'est absolument malhonnête, c'est pas possible de leur faire ça. Mais au moment où on a tourné donc la première scène dans la cuisine, où on parle du moment où ma mère est décédée, de comment on nous a caché sa mort, il y avait une telle sincérité, ils ont tellement donné, j'ai senti qu'ils étaient tellement à la recherche des mots justes, à la recherche de leur émotion, ce qui était difficile pour eux, parce que revenir en arrière comme ça, c'était très très dur. Je me suis dit à ce moment-là, je peux pas partir de cette maison sans moi-même avoir dit tout ce que je savais, quoi.
Mais vous avez décidé de le faire alors que la caméra tournait.
Voilà. Alors, c'est-à-dire que la scène d'après, qui devait être une scène de repas où on parlait de peinture, je devais, comme dans beaucoup d'autres scènes, c'est-à-dire parler d'un tableau, prendre le tableau, etc. C'était ça qui était écrit au scénario. On devait manger ce qu'elle avait préparé et parler de peinture. Voilà. Finalement, j'ai dit à Hélène et à Patrick, ça va pas être ça du tout. Je vais leur dire la vérité. Voilà. Là, c'est Et donc, je change complètement le programme, d'une certaine manière.
Et donc, Hélène et Patrick, Hélène Louvard, la chef opératrice, et Patrick, l'ingénieur du son.
Voilà. Et je leur ai dit, attention, parce que si ça se trouve, ils vont réagir très violemment. Parce que, d'une, ils vont réagir violemment parce que, comme ils sont catholiques, peut-être ça va les choquer qu'elle ait fait un avortement. Et de deux, peut-être parce que je les filme, ça va peut-être encore plus les faire réagir violemment. Donc, mais j'étais vraiment persuadée que ça pouvait tourner très, très mal. Donc, j'avais dit à Benjamin, qui était un peu l'assistant, l'électro, enfin, qui nous aidait à faire un peu tout, je lui avais dit, prépare la voiture, prends les cassettes, on va être obligé de partir en courant. Et vraiment, j'étais persuadée, j'étais terrorisée. Hélène était très calme, Patrick Jeunet aussi, eux, ils s'inquiétaient pas du tout, mais moi, j'étais absolument terrorisée parce que, en fait, je vivais ce que mon père avait vécu pendant 30 ans, c'est-à-dire le fait de lever un secret, enfin, lever un tabou, et c'est terrorisant. Mais je me disais en même temps, je ne peux pas faire autrement. Alors après, quand la scène a été tournée, j'étais extrêmement soulagée, parce que ça me pesait beaucoup de... C'était la première fois, en fait, que je filmais des gens sans qu'ils sachent vraiment pourquoi j'ai filmé, d'une certaine manière. Parce que dans le scénario, je savais qu'on allait parler de l'avortement, et eux le savaient pas, puisqu'ils savaient pas qu'elle était décédée d'un avortement. Donc j'étais très très mal à l'aise de ce mensonge, enfin de cette tricherie, enfin qui était compréhensible, enfin qui était... Donc ça m'a beaucoup soulagée, mais en même temps je me disais après, bon, je pense pas que ce sera dans le montage, quoi. Je pensais que je le mettrais pas parce que je trouve ça très gênant dans un film, alors dans une fiction bien sûr que non, c'est un procédé qui arrive souvent, hein, on en sait plus que les personnages, mais dans un documentaire c'est très étrange cette sensation d'en savoir plus, quoi. C'est bien d'être au même niveau, comme le dit Nelly Quétier, par rapport à la scène du divan, mais par contre, en savoir plus, je trouvais ça gênant. Et puis finalement, il y avait une vraie nécessité à un moment donné à la mettre et à montrer qu'on a beau avoir décidé de faire un film là-dessus, le moment de dire est un secret, c'est-à-dire c'est extrêmement difficile, quoi.
Alors Mariana Otero, si on évoque les conséquences du film, puisque là, on est quand même dans une scène où on se dit qu'elle a eu des conséquences après le film. C'est quelque chose qui a provoqué des modifications au sein de votre famille. Est-ce qu'il y a eu des remaniements? On imagine que c'est pas déjà comme spectateur, c'est pas un film dont on sort indemne. Alors au sein même de votre famille, ça a dû quand même provoquer des remous, des choses.
Oui, beaucoup. Oui. c'est même pas fini. Je crois que mais c'était nécessaire. Je pense que c'était impossible de faire autrement. Et voilà, quoi. Mais c'est évidemment pas simple, quoi. Ce que moi j'ai trouvé formidable, c'est qu'après le film, la peinture de ma mère a vraiment ressurgi, quoi. C'est-à-dire que il y a eu à peu près une vingtaine d'expositions de son œuvre dans différentes villes de France. Il y en a maintenant en Espagne. Donc c'est pour nous vraiment une résurrection, parce que ces tableaux étaient dans un placard. Et c'est vrai que j'avais pas imaginé quand je faisais le film que ça aurait cette conséquence principale, quoi. Parce que dans le film, il y a une exposition à la fin qui est en fait une fausse exposition qui a duré 2 jours. Parce qu'on m'avait dit, bah non, votre mère est pas connue, on va pas faire une exposition, quoi. Mais par contre, un an après, une fois que le film est sorti, qu'il a eu un certain succès, et le même lieu m'a dit, bien sûr, au contraire, voilà, on va faire une exposition. Et donc, comme c'est un lieu en plus où il y avait une salle de cinéma, les gens, après avoir vu le film, ils descendaient et ils voyaient l'exposition dont ils venaient de voir la représentation dans le film, quoi. C'est assez, c'est-à-dire que le film a créé du réel, d'une certaine manière. Celui-là est pour moi le plus important. Le reste, bon, c'est des histoires de famille, c'est complexe et ça mêle énormément de choses. Et comme le film n'est pas une thérapie, surtout pas une thérapie familiale, forcément c'est compliqué, quoi.
Est-ce que vous, c'est un film qui vous a soulagé malgré tout ? Vous dites le film n'est pas une thérapie, mais en même temps, on se doute bien que dans votre vie, ça a eu un impact très fort, Mariana Otero.
Oui, ça a un impact, mais je peux pas dire que ça m'est... Enfin, c'était une mission que j'avais, quoi. C'est-à-dire, du jour où j'ai su que ma mère était décédée d'un avortement, que j'ai compris que jusqu'en 74, des centaines de femmes mouraient d'avortements clandestins et que c'était une histoire absolument taboue, que personne connaissait, enfin, dont personne ne parlait plus, que les femmes de 40, 50 ans gardaient... en elle comme ça sans pouvoir le raconter. C'est vrai que là je me suis dit c'est pas possible, il faut lever ce secret de famille, mais il faut aussi, et enfin pour moi il y avait aussi cet objectif, lever ce tabou. Et c'est vrai que les spectateurs du film, c'était surtout des spectatrices, c'est-à-dire des femmes qui sont allées avec leurs filles ou avec leurs fils, parfois avec leurs maris, qui savaient pas non plus qu'elles avaient pu faire des avortements. Et il y a eu une circulation de la parole bien au-delà de ma famille, quoi. Et ça pour moi c'était fondamental. Et ça c'était une mission quelque part. Enfin, je veux dire, le jour où j'ai su comment elle était décédée, ça me semblait une évidence. Et comme je suis cinéaste, ça passe par le cinéma. Moi, que ça m'ait soulagé, ça me soulage toujours de faire des films, quoi. C'est dès que je fais un film, ça va beaucoup mieux, quoi.
Et c'est vrai que le film articule remarquablement bien à la fois une dimension intime, une dimension personnelle, c'est vraiment un documentaire à la première personne, et en même temps vous arrivez à élargir vraiment le propos, c'est-à-dire que vous parlez d'une certaine manière de tous les secrets de famille, et puis vous parlez, vous le disiez à l'instant, de toutes ces femmes décédées d'un avortement clandestin avant la loi Veil. Est-ce que si on élargit maintenant un peu au reste de votre filmographie, c'est vrai qu'Histoire d'un secret, c'est un film qui est quand même très particulier dans votre travail, mais en même temps, si on devait trouver des points communs avec vos autres films, est-ce que finalement il serait pas là, c'est-à-dire dans une dimension quand même assez politique, qui articule l'intime et le politique, mais qu'on retrouve aussi quand vous faites un film sur l'école, la loi du collège qui parle aussi bien du règlement d'un établissement scolaire que de la loi républicaine, et puis quand vous faites un film sur une télévision commerciale, qui est aussi quelque part une mission de service public, si on peut dire, de montrer les mécanismes de ce genre d'entreprise, quoi.
Oui, je pense que c'est vrai que la dimension politique dans Histoire d'un secret, elle est fondamentale. Ça me serait pas venu à l'idée de faire un film qui n'aurait eu qu'une dimension intime. Mais ceci dit, je pense que le politique, c'est aussi l'intime. Enfin, sinon, ce serait pas du politique, c'est du verbiage. Enfin, c'est donc forcément, il y a une dimension intime dans le politique. Enfin, si on gère une société, si on trouve une manière de la faire fonctionner, c'est pour chacun, c'est pour tout le monde et pour chacun. Donc c'est vrai que même dans la loi du collège, effectivement, c'est des histoires particulières. C'est toujours des enfants particuliers, même si on connaît pas leurs histoires à l'extérieur, elle surgit justement à travers leurs paroles. C'est toujours des histoires individuelles qui se confrontent à une loi générale et comment ça s'articule, quoi. Comment on peut faire, avec toutes ces histoires particulières, fonctionner un groupe, quoi. Et donc la question, elle est bien là. Et la télévision, effectivement, il y a une dimension politique dans une télévision. Et ce que je voulais voir, c'est comment des gens particuliers, des gens travaillent au quotidien et font fonctionner cette télévision, avec quel discours, avec quel enthousiaste, parce qu'ils sont très très enthousiastes, avec quelle énergie, leur désespoir, parce que des fois ils sont désespérés quand l'audience baisse. Enfin bon, voilà, c'est ça a aussi cette dimension là, quoi. C'est humain, quoi. C'est
pour poursuivre un peu sur Histoire d'un secret. C'est vrai que on disait articulation entre une dimension intime et une dimension universelle. Moi, j'ai le sentiment, je ne savais pas que le projet original contenait une voix off, que le film est d'autant plus universel et parle d'autant plus à tout le monde qu'il ne contient pas cette voix off. Alors, visiblement, Nelly Quétier et Denis Fred le racontaient, ça a été quand même douloureux d'abandonner cette voix off. Mais est-ce que ce n'est pas finalement ce qui fait que le film est aussi ouvert à tous les spectateurs ?
Douloureux, je peux pas vraiment dire ça l'a été. C'est vrai que quand j'avais écrit le scénario, elle était indispensable dans l'écriture du scénario, je pense, parce que de toute façon, il n'y avait pas les scènes. Enfin, il y avait la structure du film, il y avait l'énoncé de ce qui allait se passer. Donc, on voyait, il y avait l'organisation comme ça du récit, mais à l'intérieur des scènes, comme je savais pas ce qu'on allait se dire, il y avait rien. Donc, ça aurait été très sec si le film... Donc la voix off, elle était là aussi dans le projet pour donner la dimension émotionnelle qui finalement, et ça je l'ai compris après en montant le film, était apportée par les scènes. Donc il n'y avait plus besoin de cette voix off. Et c'est vrai que le jeu, ça c'est l'analyse qu'on fait après coup, hein, c'est vrai que sur le moment, il n'y a pas d'évidence, hein, il a fallu tous ces mois avant d'y arriver, mais le jeu devenait envahissant. Enfin, c'est-à-dire jeu, moi le personnage qui en fait devait rester en retrait, et je l'avais tourné comme ça d'ailleurs, assez en retrait, avec cette voix off, il revenait en force et il faisait écran en fait entre le spectateur et le film, et l'histoire, et ma mère aussi, d'une certaine manière. Ça faisait écran entre elle et le spectateur.
Justement, toujours sur la question du jeu, c'est vrai que pour la première fois dans ce film, vous apparaissez à l'image. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour vous ? Et moi, j'ai eu le sentiment aussi en voyant le film qu'il y avait quand même un mouvement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous apparaissez de plus en plus dans le cadre. Au début, vous êtes plutôt un peu bord cadre, comme ça, et puis de plus en plus, c'est comme si votre présence à vous aussi s'affirmait à mesure que vous ressuscitez à la fois l'œuvre de votre mère et puis votre mère elle-même.
Oui, c'est vrai que ça, on s'en est rendu compte, Hélène et moi. Enfin, je suis pas sûre qu'on en ait vraiment eu conscience pendant le tournage. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure que le film passe, je suis carrément à la fin face caméra. Enfin, mais par contre, ce qui m'avait paru évident, c'est qu'il fallait que je sois dans le film pour accompagner les gens que j'allais à qui j'allais demander des choses. Et surtout, je voulais pas qu'ils aient l'impression, si j'avais été derrière la caméra, que je sois en... Je les interroge, quoi. Je voulais surtout pas qu'ils aient cette impression-là. C'était des scènes où ensemble on allait se remémorer des choses. Et pour ça, il fallait que je sois dans la scène aussi. Et en plus, en étant dans la scène, je pouvais plus la diriger, la scène. C'est là que toute l'expérience que j'avais eue avant en cinéma direct, ça m'a beaucoup aidée parce que, en plus, c'est moi qui filmais dans mes autres films. Donc j'avais conscience de ce que faisait Hélène. J'oubliais jamais la caméra, enfin j'oubliais jamais ce que la scène qui était en train de se faire d'un point de vue la réalisation. Enfin j'étais un peu double, quoi. C'était assez étrange parce qu'à la fois j'étais dedans dans la scène et en même temps j'étais dehors, quoi, avec Hélène d'une certaine manière. Et je dirigeais la scène en fonction de ce que je savais qu'elle rendrait, y compris dans le montage, puisque j'étais habituée à ce genre de scène par mes autres films. Je pense que j'aurais pas pu faire ce film si avant j'avais pas fait les autres, quoi. J'aurais pas eu la maîtrise que j'ai pu avoir là, quoi.
Est-ce que vous vous verriez dans un prochain film diriger, mettre en scène des comédiens, pas seulement des personnes réelles?
J'y ai pensé après ce film-là, je me suis dit, là peut-être je vais pouvoir faire de la fiction. Parce qu'en fait, j'ai fait donc l'IDEC, et puis mes tournages de fiction à l'IDEC m'ont totalement dégoûté de la fiction. Et je croyais à l'époque du cinéma, parce que je savais pas que le documentaire existait. Donc... dans la ville où j'habitais, il n'y en avait pas, on n'avait pas la télé. Et puis à l'IDEC, c'est vrai qu'à cette époque-là, on en parlait très très peu du documentaire. Et quand je suis sortie de l'IDEC, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et puis finalement, c'est pas pour moi, je suis déçue, quoi. C'est l'équipe, le fait de programmer, d'écrire avant, tourner, monter, tout ça me semblait très artificiel. C'est pas... Et puis on m'a proposé de faire un documentaire. Et ça a été une expérience donc pour mon premier film, Non-lieu, avec les ateliers Varan, c'était un atelier de production. Et là, ça a été un bonheur absolu. Et bon, j'ai cru très naïvement que j'inventais le documentaire, parce que je n'en avais jamais vu quasiment. J'ai vite compris que non. Hein. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est-à-dire, c'est raconter des histoires, mais avec des gens, quoi. Et travailler le cinéma comme ça, de cette manière-là. Après, Histoire d'un secret, quand même, comme il y avait beaucoup de choses qui tenaient de la fiction, enfin, d'une manière de fabriquer qui était de la fiction, je me suis dit, peut-être je vais réessayer la fiction. Puis j'ai donc passé 2-3 ans à essayer d'écrire un scénario de fiction, et en fait, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas, je trouve que ça, très vite, les choses perdent leur sens. Enfin, je sais plus pourquoi je fais ça. Si j'ai pas des gens devant moi qui ont quelque chose à raconter et avec qui je vais raconter quelque chose, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Le cinéma, pour moi, c'est vraiment, mais pas comme spectatrice, j'aime beaucoup les fictions, mais pour le faire, c'est vraiment le documentaire, quoi. Par contre, dans mon prochain film, je veux expérimenter des choses qui évidemment travaillent avec la fiction. Enfin, expérimenter des manières de faire. Je peux plus refaire ce que j'ai déjà fait avant cinéma direct plus classique. Je peux pas refaire ce que j'ai déjà fait, parce que je pense que quand on sait comment ça marche, on n'a plus non plus la même authenticité avec les gens. Enfin, il y a quelque chose qui se perd. Moi, il faut que je réinvente à chaque fois une autre manière de travailler avec les gens. Donc c'est pour ça que je suis assez lente, parce qu'à chaque fois c'est de plus en plus compliqué, il faut que je trouve encore autre chose, quoi.
C'est vrai que, somme toute, vous avez fait assez peu de films. Est-ce que ça, c'est aussi une caractéristique de votre cinéma documentaire, c'est-à-dire la nécessité de prendre le temps pour élaborer des projets qui, à la fin, sont extrêmement pensés et je pense que ça se voit à l'écran, mais que d'une certaine manière, le prix à payer, bah, c'est de passer parfois plusieurs années pour construire un film.
Oui, parce que comme j'ai pas envie de répéter la manière dont j'ai travaillé avant, c'est pas juste un sujet qui peut m'attirer. C'est-à-dire, il y a des tas de sujets que je trouve intéressants, mais je me dis, bah oui, je vais le faire comme j'ai fait du collège. Bon, ben, là, j'aurais pu faire l'hôpital, enfin, je sais pas, d'autres lieux comme ça, d'autres institutions. Mais je dis oui, mais je sais déjà comment je vais le faire, donc ça sera sûrement très intéressant. Mais le fait d'imaginer, de pouvoir imaginer comment le processus va avoir lieu pour arriver au bout du film, en fait, ça, si je sais, ça m'intéresse plus, quoi. Donc il faut que non seulement je trouve un sujet qui m'intéresse, mais en plus, il faut que ce soit fait d'une manière dont risqué, quoi, enfin expérimental d'une certaine manière. Pour moi, hein, même si d'autres l'ont fait, hein, peu importe. Je veux pas faire forcément original, c'est pas du tout ça. Mais moi, il faut que pour moi, ce soit quelque chose que j'ai jamais fait.
Merci Marianne Otero et merci aussi à Isabelle Otero, Hélène Louvard, Denis Fred et Nelly Quétier. C'était Sur les docks, passeur de réel, Marianne Otero. Mixage Jean-Michel Coqui et Pascal Baronzelli. Prise de son Alain Nedelec, Olivier Leroux, Laurent Lucas. Attaché d'émission Laure-Hélène Planchet et Christine Gage. Une émission de Jean-Baptiste Berthier et Vanessa Nadjar.
Écoutez l'heure du documentaire disponible en podcast sur le site de France Culture. Rendez-vous la semaine prochaine pour une série de Sur les docks consacrée à des portraits au masculin. Abou Jandal, ancien garde du corps de Ben Laden, José des Tarterets, Alain Leprest, Socrate en culotte courte et Janusz Korczak. Et tout de suite, la chronique de Céline Duchesnay.